Alphonse Daudet, Numa Roumestan, Mœurs parisiennes, aux arènes. Ce dimanche-là, un dimanche de juillet chauffé à blanc, il y avait à l'occasion du concours régional une grande fête de jour aux arènes d'Afs-en-Provence. Toute la ville était venue. Les tisserands du chemin neuf, l'aristocratie du quartier de la Calade, même du monde de Beaucaire. 50 000 personnes au moins, hein, disait le forum dans sa chronique du lendemain. Ben, on doit tenir compte de l'enflure méridionale. Le vrai, c'est qu'une foule énorme s'étageait, s'écrasait sur les gradins brûlés du soleil, dans le vieil amphithéâtre, comme au beau temps des Antonins, et que la fête des comices n'était pour rien dans ce débordement de peuple. Il fallait autre chose que les courses landaises, les luttes pour hommes et demi-hommes, les jeux de l'étrange chat et du saut sur l'outre, les concours de flûte et de tambourin, spectacles locaux plus usés que la pierre rousse des arènes, pour rester 2 heures debout sur ces dalles flambantes, 2 heures dans ce soleil tuant, aveuglant, à respirer de la flamme et de la poussière à odeur de poudre, à braver les ophtalmies, les insolations, les fièvres pernicieuses, tous les dangers, toutes les tortures de ce qu'on appelle là-bas une fête de jour. Le grand attrait du concours, c'était Numa Roumestan. Ah, le proverbe qui dit « Nul n'est prophète » est certainement vrai des artistes, des poètes, dont les compatriotes sont toujours les derniers à reconnaître les supériorités, tout idéal en somme et sans effet visible. Mais il ne saurait s'appliquer aux hommes d'État, aux célébrités politiques et industrielles à ces fortes gloires de rapport qui se monnaient en ferveur, en influence, se reflète en bénédictions de toutes sortes sur la ville et sur l'habitant. Voilà 10 ans que le grand Numa, le député leader de toutes les droites, est prophète en terre de Provence. 10 ans que pour ce fils illustre, la ville d'Aps a les tendresses, les effusions d'une mère, et d'une mère du midi à manifestation, à cris, à caresses gesticulantes. Dès qu'il arrive en été, après les vacances de la chambre, dès qu'il apparaît en gare, les ovations commencent. Les orphéons sont là, gonflant sous les cœurs héroïques leurs étendards brodés. Des portefeuilles assis sur les marches attendent que le vieux carrosse de famille, qui vient chercher le leader et fait 3 tours de roue entre les larges platanes de l'avenue Berchère, et alors ils se mettent au même, au brancard, et traînent le grand homme au milieu des vivats et des chapeaux levés jusqu'à la maison portale où il descend. Cet enthousiasme est tellement passé dans la tradition, dans le cérémonial de l'arrivée, que les chevaux s'arrêtent spontanément, comme un relais de poste, au coin de la rue où les portefeuilles ont l'habitude de dételer, et tous les coups de fouet ne leur feraient pas faire un pas de plus. Du premier jour, la ville change d'aspect. Oh, ce n'est plus la mort de préfecture aux longues siestes bercées par le cristri dans des cigales sur les arbres brûlés du cours. Même aux heures de soleil, les rues, l'esplanade s'animent et se peuplent de gens affairés, de chapeaux de visite, vêtements de drap noir, tout crus dans la vive lumière, découpant sur les murs blancs l'ombre épileptique de leurs gestes. Le carrosse de l'évêché, du président, secoue la chaussée, puis des délégations du faubourg, où Roumestan est adoré pour ses convictions royalistes, des députations d'ourdisseuses s'en vont par bandes dans toute la largeur du boulevard, la tête hardie sous le ruban arlésien. Les auberges sont pleines de gens de la campagne, fermiers de Camargue ou de Croix, dont les charrettes dételées encombrent les petites places, les rues et les quartiers populeux, comme au jour de marché. Le soir, les cafés bourrés de monde restent ouverts bien avant dans la nuit, et les vitres du cercle des Blancs, éclairées à des heures indues, s'ébranlent sous les éclats de la voix du Dieu. Pas prophète en son pays. Oh, il n'y avait qu'à voir les arènes en ce bleu dimanche de juillet 1875. L'indifférence du public pour ce qui se passait dans le cirque. Toutes les figures tournées du même côté. Ce feu croisé de tous les regards sur le même point. L'estrade municipale où Roumestan était assis au milieu des habits chamarrés et des soies tendues multicolores des ombrelles de cérémonie. Il n'y avait qu'à entendre les propos, des cris d'extase, les naïves réflexions à haute voix de ce bon populaire naps. Les unes en provençal, les autres dans un français barbare, frottés d'ail, tout avec cet accent implacable comme le soleil de là-bas, qui découpe et met en valeur chaque syllabe, ne fait pas grâce d'un point sur un i. Dieu qui est bio, Dieu qu'il est beau. Oh, il a pris un peu de corde, puis l'an passé. Bah, il a pris l'air imposant comme ça. Ne poussez pas tant, il y en a pour tout le monde. Tu le vois, petit, notre Numa, hein, quand tu seras grand, tu pourras dire que tu l'as vu, qu'est. Oh, toujours son nez bourbon, et pas une dent qui lui manque. Et pas de cheveux blancs non plus. T'es pardi, il n'est pas déjà si vieux. Il est de 32, l'année que Louis-Philippe tomba les croix de la mission Péquerre. Oh, gueusard de Philippe. Mais ne les paraît pas, ses 43 ans. Sûr que non, il ne les paraît pas. Oh, t'es bel astre. Et d'un geste hardi, une grande fille aux yeux de braise lui envoyait de loin un baiser sonnant dans l'air comme un cri d'oiseau. Prends garde, si sa femme te voyait.
C'est la bleue, sa dame?
Non. La bleue, c'était sa belle-sœur, mademoiselle Hortense. Oh, une jolie demoiselle qui ne faisait que sortir du couvent et déjà montait le cheval, comme on dit, un dragon. Madame Roumestan était plus peu osée, de meilleure tenue, mais elle avait l'air bien plus fière. Ces dames de Paris, ça s'en croit tant. Et dans le pittoresque affronté de leur langue à demi latine, les femmes debout, les mains en abat-jour au-dessus des yeux, détaillaient tout haut les deux parisiennes, leurs petits chapeaux de voyage, leurs robes collantes, sans bijoux, d'un si grand contraste avec les toilettes locales, chaînes d'or, jupes vertes, rouges, arrondies de tournures énormes. Les hommes énuméraient les services rendus par Numa à la bonne cause, sa lettre à l'empereur, son discours pour le drapeau blanc. Bah, si on en avait une douzaine comme lui à la chambre, Henri V serait sur le trône depuis longtemps. Enivré de ces rumeurs, soulevé par cet enthousiasme ambiant, le bon Numa ne tenait pas en place. Il se renversait sur son large fauteuil, les yeux clos, la face épanouie, se jetait d'un côté sur l'autre, puis bondissait, arpentait la tribune à grands pas, se penchait un moment vers le cirque, humait cette lumière, ses cris, et revenait à sa place, familier, bon enfant, la cravate lâche, sautait à genoux sur son siège, et le dos et les semelles à la foule, parlait à ses parisiennes assises en arrière et au-dessus de lui, tâchait de leur communiquer sa joie. Madame Roumestan s'ennuyait. Cela se voyait à une expression de détachement, d'indifférence sur son visage aux belles lignes d'une froideur un peu hautaine, quand l'éclair spirituel de deux yeux gris, de deux yeux de perles, ses vrais yeux de parisienne, le sourire entrouvert d'une bouche étincelante ne l'animait pas. ces gaietés méridionales faites de turbulences, de familiarités, cette race verbeuse tout en dehors, en surface, à l'opposé de sa nature si intime et sérieuse, la froissait peut-être sans qu'elle s'en rendît bien compte, parce qu'elle retrouvait dans ce peuple le type multiplié, vulgarisé de l'homme, à côté de qui elle vivait depuis 10 ans, et qu'à ses dépens elle avait appris à connaître. Le ciel non plus ne la ravissait pas, excessif d'éclat, de chaleur réverbérée. Mais comment faisait-il pour respirer, tous ces gens-là? Où trouvait-il du souffle pour tant de cris? Et elle se prenait à rêver tout haut d'un joli ciel parisien, gris et brouillé d'une fraîche ondée d'avril sur les trottoirs luisants. Oh, Rosalie, si l'on peut dire! Sa sœur et son mari s'indignaient. Sa sœur surtout, une grande jeune fille éblouissante de vie, de santé, dressée de toute sa taille pour mieux voir. Elle venait en Provence pour la première fois, et pourtant l'on eût dit que tout ce train de cris, de gestes, dans un soleil italien, remet en elle une fibre secrète, un instinct engourdi, les origines méridionales que révélaient ses longs sourcils joint sur ses yeux de houri et la matité d'un teint où l'été ne mettait pas une rougeur. « Voyons, ma chère Rosalie, » faisait Roumestan, qui tenait à convaincre sa femme, « levez-vous et regardez ça. Paris vous a-t-il jamais rien montré de pareil ?» Dans l'immense théâtre élargi en ellipse et qui découpait un grand morceau de bleu, des milliers de visages se serraient sur les gradins en étage avec le pointillement vif des regards, le reflet varié, le papillotage des toilettes de fête et des costumes pittoresques. De là, comme d'une cuve gigantesque, montaient des huées joyeuses, des éclats de voix et de fanfares volatilisés, pour ainsi dire, par l'immense lumière du soleil. À peine distincte aux étages inférieurs où poudroyaient le sable et les haleines, cette rumeur s'accentuait en montant, se dépouillait dans l'air pur. On distinguait surtout le cri des marchands de pain au lait, qui promenaient de gradin en gradin leurs corbeilles drapées de linge blanc. « Lipanoula, lipanoula !» Et les revendeuses d'eau fraîche, balançant leurs cruches vertes et vernies, vous donnez soif de les entendre glapir. L'alguas fresco, que veut boire? L'eau est fraîche, qui veut boire? Puis, tout en haut, des enfants, courant et jouant à la crête des arènes, promenaient sur ce grand brouhaha une couronne de sons aigus, au niveau d'un vol de martinet, dans le royaume des oiseaux. Et sur tout cela, quels admirables jeux de lumière, à mesure que, le jour s'avançant, le soleil tournait lentement dans la rondeur du vaste amphithéâtre, comme sur le disque d'un cadran solaire, reculant la foule, la groupant dans la zone de l'ombre, faisant vide les places exposées à la trop vive chaleur. Des espèces de dalles rousses séparées d'herbes sèches où des incendies successifs ont marqué des traces noires. Parfois, aux étages supérieurs, une pierre se détachait du vieux monument sous une poussée du monde, roulait d'étage en étage au milieu des cris de terreur, des bousculades, comme si tout le cirque croulait. Et c'était sur les gradins un mouvement pareil à l'assaut d'une falaise par la mer en furie, car chez cette race exubérante, l'effet n'est jamais en rapport avec la cause, grossie par des visions, des perceptions disproportionnées. Ainsi peuplée et animée, la ruine semblait revivre, perdait sa physionomie de monument à Cicérone. On avait, en la regardant, la sensation que donne une strophe de Pindare récitée par un Athénien de maintenant, c'est-à-dire la langue morte redevenue vivante, n'ayant plus son aspect scolastique et froid. Ce ciel si pur, ce soleil d'argent vaporisé, ces intonations latines conservées dans l'idiome provençal, ça et là, surtout aux petites places, des attitudes à l'entrée d'une voûte, des poses immobiles que la vibration de l'air faisait antique, presque sculpturale, le type de l'endroit, ces têtes frappées comme des médailles avec le nez court et busqué, le manteau retourné de Roumestan, tout complétait l'illusion d'un spectacle romain, jusqu'au beuglement des vaches landaises en écho dans les souterrains d'où sortaient jadis les lions et les éléphants de combat. Aussi, quand sur le cirque vide et tout jaune de sable s'ouvrait l'énorme trou noir du podium, fermé d'une claire-voie, on s'attendait à voir bondir les fauves au lieu du pacifique et champêtre défilé de bêtes et de gens couronnés de concours. À présent, c'était le tour des mules harnachées, menées à la main, couvertes de somptueuses sparteries provençales, portant haut leurs petites têtes sèches ornées de clochettes d'argent, de pompons, de nœuds, de bouffettes, et ne s'effrayant pas des grands coups de fouet, coupants et clairs, en pétards, en serpentaux, des muletiers debout sur chacune d'elles. Dans la foule, chaque village reconnaissait ses lauréats, les annonçait à voix haute. « Oh, voilà Cavaillon ! Voilà Maussan !» La longue file somptueuse se déroulait tout autour de la reine qu'elle remplissait d'un cliquetis étincelant de sonneries lumineuses, s'arrêtait devant la loge de Roumestan, accordant une minute en aubade d'honneur ses coups de fouet et ses sonnailles, puis continuait sa marche circulaire sous la direction d'un beau cavalier en col en droit, clair et bottes montantes, un des messieurs du cercle, organisateur de la fête, qui gâtait tout sans s'en douter, mêlant la province à la Provence, donnant à ce curieux spectacle local un vague aspect de cavalcade de Franconi. Du reste, à part quelques gens de campagne, personne ne regardait. On n'avait Dieu que pour l'estrade municipale, envahi depuis un moment par une foule de personnes venant saluer Numa, des amis, des clients, d'anciens camarades de collège, fiers de leur relation avec le grand homme, et de les montrer là, sur ces tréteaux, bien en vue. Le flot succédait sans interruption. Il y en avait des vieux, des jeunes, des gentilshommes de campagne, en complet gris, de la guêtre au petit chapeau, des chefs d'atelier endimanchés dans leurs redingotes marquées de plis, des ménagers, des fermiers de la banlieue d'Apps en veste ronde, un pilote du port Saint-Louis tortillant son gros bonnet de forçat, tous avec leur midi marqué sur la figure, qu'ils fussent envahis jusque dans les yeux de ces barbes en palissandre que la pâleur des teints orientaux fait plus noirs encore, ou bien rasés à l'ancienne France, le cou court, rougeau et suintant comme des alcaragas en terre cuite, tout ce l'œil noir flambant hors de la tête, le geste familier et tutoyeur. Et comme Roumestan les accueillait, sans distinction de fortune ou d'origine, avec la même effusion inépuisable, « T'es, monsieur d'Espalion, et comment va, marquis ?»« Eh ben, mon vieux, comment t'es où ? C'est le pilotage !»« Oh, je salue de tout cœur, monsieur le président Bédaride !» Alors les poignées de main des accolades, de ces bonnes tapes sur l'épaule qui doublent la valeur des mots, toujours trop froids au gré d'une sympathie méridionale. L'entretien ne durait pas longtemps, par exemple. Le leader n'écoutait que d'une oreille, le regard distrait, et tout en causant, disait bonjour de la main au nouveau venu. Mais personne ne se fâchait de sa brusque façon d'expédier son monde avec de bonnes paroles. Bien, bien. Oui, je m'en charge. En faites votre demande. Oui, je l'apporterai. C'était des promesses de bureau de tabac, de perception. Ce qu'on ne demandait pas, il le devinait, encourageait les ambitions timides, les provoquait. Pas médaillé, le vieux Cabantous, après ma sauvetage. Ben, envoyez-moi ces papiers. On m'adore à la marine. Nous réparerons cette injustice. Sa voix sonnait chaude et métallique, frappant, détachant les mots. On eût dit des pièces d'or toutes neuves qui roulaient. Et tous s'en allaient ravis de cette monnaie brillante, descendaient de l'estrade avec le front rayonnant de l'écolier qui emporte son prix. Le plus beau dans ce diable d'homme, c'était sa prodigieuse souplesse à prendre les allures, le ton des gens à qui il parlait, et cela le plus naturellement, le plus inconsciemment du monde. Onctueux, le geste rond, la bouche en cœur avec le président Bénaride, le bras magistralement étendu comme s'il secouait sa toge à la barre, l'air martial, le chapeau casseur pour parler au colonel de Rochemaure. Et vis-à-vis de Cabantous, oh, les mains dans les poches, les jambes arquées, le roulis d'épaule d'un vieux chien de mer. De temps en temps, entre deux accolades, il revenait vers ses parisiennes, radieux, épongeant son front qui ruisselait. Mais mon bon Numa, lui disait Hortense tout bas avec un joli rire, mais où prendrez-vous tous les bureaux de tabac que vous leur promettez? Roumestan penchait sa grosse tête crépue, un peu dégarnie dans le haut. C'est promis, petite sœur, ce n'est pas donné. Et devinant un reproche dans le silence de sa femme, n'oubliez pas non plus que nous sommes dans le Midi, entre compatriotes parlant la même langue. Tous ces braves garçons savent ce que vaut une promesse et n'espèrent pas leur bureau de tabac plus positivement que moi je ne compte le leur donner. Seulement ils en parlent, ça les amuse, leur imagination voyage. Pourquoi les priver de cette joie? Du reste, voyez-vous, entre méridionaux, les paroles n'ont jamais qu'un sens relatif. C'est une affaire de mise au point. Comme la phrase lui plaisait, il répéta deux ou trois fois, en appuyant sur la finale, une mise au point, oui, une mise au point. J'aime ces gens-là, disait Hortense, qui décidément s'amusait beaucoup. Mais Rosalie n'était pas convaincue. Mais pourtant, les mots signifient quelque chose, murmura-t-elle très sérieuse, comme se parlant au plus profond d'elle-même. Ah, ma chère, ça dépend de l'attitude. Et Roumestan assura son paradoxe d'un coup d'épaule qui lui était familier, l'en avant d'un porte-balles remontant sa bricole. Le grand orateur de la droite gardait comme cela quelques habitudes de corps dont il n'avait jamais pu se défaire et qui, dans un autre parti, l'auraient fait passer pour un homme du commun. Mais aux sommets aristocratiques où il siégeait entre le prince d'Anhalt et le duc de la Roche-Taillade, c'était un signe de puissance et de forte originalité. Et le faubourg Saint-Germain raffolait de ce coup d'épaule sur le large dos trapu qui portait les espérances de la monarchie française. Si Madame Roumestan avait partagé jadis les illusions du faubourg, c'était bien fini maintenant, à en juger par le désenchantement de son regard, le petit sourire qui retroussait sa lèvre à mesure que le leader parlait, sourire plus pâle encore de mélancolie que de dédain. Mais son mari la quitta brusquement, attiré par les sons d'une étrange musique qui montait de l'arène au milieu des clameurs, de la foule debout exaltée, criant « Valmajour! Valmajour !» vainqueur au concours de la veille, le fameux Valmajour, premier tambourinaire de Provence, venait saluer Numa de ses plus jolis airs. Vraiment, il avait bonne mine, ce Valmajour, planté au milieu du cirque, sa veste de cadis jaune sur l'épaule, autour des reins, sa taillole d'un rouge vif tranchant sur l'emploi blanc du linge. Il tenait son long et léger tambourin, pendu au bras gauche par une courroie, et de la main du même bras portait à ses lèvres un petit fifre, pendant que de sa main droite il tambourinait, l'air crâne, la jambe en avant. Tout petit, ce fifre remplissait l'espace comme une branle de cigale, bien fait pour cette atmosphère limpide, cristalline, où tout vibre, tandis que le tambourin, de sa voix profonde, soutenait le chant et ses fioritures. Au son de cette musique aigrelette et sauvage, mieux qu'à tout ce qu'on lui montrait depuis qu'il était là, Roumestan voyait se lever devant lui son enfance de gamin provençal, courant les fêtes de campagne, dansant sous les platanes feuillis des places villageoises, dans la poudre blanche des grands chemins, sur la valorne des côtes brûlées. Une émotion délicieuse lui piquait les yeux, car malgré ses 40 ans passés, la vie politique, si désenchante, il gardait encore, par un bénéfice de nature, beaucoup d'imagination, cette sensibilité de surface qui trompe sur le fond vrai d'un caractère. Et puis ce Valmajour n'était pas un tambourinaire comme les autres, un de ces vulgaires ménétriers qui ramassent des bouts de caderie, des refrains de café, chantant dans les fêtes de pays, en canaillant leur instrument, en voulant l'accorder au goût moderne. Fils et petit-fils de tambourinaires, ils ne jouaient jamais que des airs nationaux, des airs chevrotés par les grands-mères ou veillées. Et il en savait, il ne se lassait pas. Après les Noëls de Saboli rythmés en menuet, en rigodon, il entonnait la marche des rois, sur laquelle Turenne au grand siècle a conquis et brûlé le Palatinat. Le long des gradins où des fredons couraient tout à l'heure un vol d'abeilles, la foule électrisée marquait la morsure avec les bras, avec la tête, suivait ce rythme superbe qui passait comme un coup de mistral dans le grand silence des arènes traversées seulement par le sifflement éperdu des hirondelles tournoyant en tous sens, là-haut, dans l'azur verdissant, inquiètes et ravies comme si elles cherchaient à travers l'espace quel invisible oiseau décochait ses notes suraiguës. Quand Valmajour eut fini, des acclamations folles éclatèrent. Les chapeaux, les mouchoirs étaient en l'air. Roumestan appela le musicien sur l'estrade et lui sauta au cou. « Oh, tu m'as fait pleurer, mon brave !» Et il montrait ses yeux, de grands yeux bruns, dorés, tout embus de larmes. Très fier de se voir au milieu des broderies et des épées de nacre officielles, l'autre acceptait ses félicitations, ses accolades sans trop d'embarras. C'était un beau garçon, la tête régulière, le front haut, barbiche et moustache d'un noir brillant sur le teint basané, un de ces fiers paysans de la vallée du Rhône, qui n'ont rien de l'humilité finaude des villageois du centre. Mortance remarqua tout de suite comme sa main restait fine dans son gant de halle. Elle regarda le tambourin, sa baguette à bout d'ivoire, s'étonna de la légèreté de l'instrument, depuis 200 ans dans la famille, et dont la caisse de noyer, agrémentée de légères sculptures, polie, amincie, sonore, semblait comme assouplie sous la patine du temps. Elle admira surtout le galoubet, la naïve flûte rustique à trois trous des anciens tambourinaires, à laquelle Valmajour était revenu par respect pour la tradition, et dont il avait conquis le maniement à force d'adresse et de patience. Rien de plus touchant que le petit récit qu'il faisait de ses luttes, de sa victoire. « Ce m'est venu, disait-il en son français bizarre, ce m'est venu de nuit en écoutant sauter le rossignol. Je me pensais dans moi-même, comment Valmajour, voilà l'oiseau du bon Dieu, que son gosier lui suffit pour toutes les roulades, et ce qu'il fait avec un trou, toi, les trois trous de ton flûtet, ne le saurait fois faire, alors ?» Il parlait posément d'un beau timbre confiant et doux, sans aucun sentiment de ridicule. D'ailleurs, personne n'eût osé sourire devant l'enthousiasme de Numa, levant les bras, trépignant à défoncer la tribune. « Oh, quel beau, quel artiste !» Et après lui, le maire, le général, le président Médard Ride, M. Roumavage, un grand fabricant de bière de Beaucaire, vice-consul du Pérou, sanglé dans un costume de carnaval tout en argent, d'autres encore, entraînés par l'autorité du leader, répétaient d'un accent convaincu « Oh, quel artiste !» C'était aussi le sentiment d'Hortense, et elle l'exprimait avec sa nature expansive. « Oh oui, un grand artiste !» Pendant que Madame Roumestan murmurait « Mais vous allez le rendre fou, ce pauvre garçon !» Il n'y paraissait guère, cependant, à l'air tranquille de Valmajour, qui ne s'est vu pas même en entendant Numa lui dire brusquement « Viens à Paris, garçon, ta fortune est faite !» « Oh, ma sœur ne voudrait jamais me laisser aller, » répondit-il en souriant. Sa mère était morte. Il vivait avec son père et sa sœur dans un fermage qui portait leur nom à trois lieues d'Aps, sur le mont de Cordoue. Roumestan jura d'aller le voir avant de partir. Il parlerait aux parents. Oh, il était sûr d'enlever l'affaire. « Je vous y aiderai, Numa, » dit une petite voix derrière lui. Valmajour salua sans un mot, tourna sur ses talons et descendit le large tapis de l'estrade, sa caisse au bras, la tête droite, avec ce léger déhanchement du provençal, ami du rythme et de la danse. En bas, des camarades l'attendaient, lui serraient les mains. Puis un cri retentit. « La farandole !» Clameur immense, doublée par l'écho des voûtes, des couloirs, d'où semblait sortir l'ombre et la fraîcheur qui envahissaient maintenant les arènes et rétrécissaient la ronde zone du soleil. À l'instant, le cirque fut plein, mais plein à faire éclater ses barrières, d'une foule villageoise, une mêlée de fichus blancs, de jupes voyantes, de rubans de velours, battant aux coiffes de dentelles, de blouses passementées, de vestes, de caddies. Sur un roulement de tambourin, cette cohue s'aligna, se défila en bande, le jarret tendu, les mains unies. Un tri de galoubets fit onduler tout le cirque, et la farandole menée par un gars de Barbantane, le pays des danseurs fameux, se mit en marche lentement, déroulant ses anneaux, battant ses entrechats presque sur place, remplissant d'un bruit confus, d'un froissement d'étoffe et d'haleine, l'énorme baie du vomitoire où peu à peu elle s'engouffrait. Valmajour suivait d'un pas égal, solennel, repoussait en marchant son gros tambourin du genou et jouait plus fort à mesure que le compact entassement de la reine, à demi noyé dans le tendre bleu du crépuscule, se dévidait comme une bobine d'or et de soie. Regardez là-haut, dit Rumestand à tout à coup. C'était la tête de la danse surgissant entre les arcs de voûte du premier étage, pendant que le tambourinaire et les derniers farandoleurs piétinaient encore dans le cirque. En route, la ronde s'allongeait de tous ceux que le rythme entraînait de force à sa suite. Qui donc parmi ces provençaux aurait pu résister au flûtet magique de Malmajour? Porté, lancé par des rebondissements du tambourin, on entendait à la fois tous les étages, passant les grilles et les soupiraux décelés, dominant les exclamations de la foule. Et la farandole montait, montait, arrivait aux galeries supérieures que le soleil bordait encore d'une lumière fauve. L'immense défilé des danseurs bondissants et graves découpait alors sur les hautes baies cintrées du pourtour, dans la chaude vibration de cette fin d'après-midi de juillet, une suite de fines silhouettes, animait sur la pierre antique un de ces bas-reliefs comme il en court au fronton dégradé des temples. En bas, sur l'estrade des amplis, car on partait et la danse prenait plus de grandeur au-dessus des gradins vides, le bon Numa demandait à sa femme, en lui jetant un petit châle de dentelle sur les épaules pour le frais du soir, « Est-ce beau, voyons? Est-ce beau ?»« Très beau, » fit la Parisienne, remuée cette fois jusqu'au fond de sa nature artiste. Et le grand homme d'Aps semblait plus fier de cette approbation que des hommages bruyants dont on l'étourdissait depuis 2 heures.